With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
S'il vous plaît, votre recette, merci. Avec les chips.
Ma vie, j'aurai un manque de chat!
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
On accueille bien les gens, on aime les gens et je pense que tout de suite on se sent bien à Chypre, quoi.
2006 avec Marcos, c'est la meilleure performance de sa carrière. Bon, à ce moment-là, il y a 21 ans, il est jeune, il est en finale de l'Open d'Australie. Il a été champion du monde junior et il va faire la même année demi-finale à Wimbledon et il atteint le top 10 mondial.
Le numéro 1 mondial, Raphaël Nadal.
Salut, c'est Max, bienvenue sur le podcast Tennis Légende. On vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro pour diffuser un nouvel épisode chaque mardi. Alors abonne-toi tout de suite au podcast pour être sûr de ne rien rater. Attention, si tu veux vivre la finale d'un grand chelem dans la tête d'un jeune joueur d'à peine plus de 20 piges, cet épisode est pour toi. Et oui, aujourd'hui, on est avec un homme aussi attachant que populaire dans son état insulaire dont il est originaire. Il a été 12 saisons dans le top 100 avec une pointe au 6e rang mondial à la race, 13 semaines top 10 en 2006. Il est le deuxième finaliste en Grand Chelem à passer sur notre podcast après Joe. Et c'est juste un kiff de retracer sa carrière, lui qui a battu Roger et Rafa quand ils étaient respectivement numéro 1 mondiaux et pas n'importe où, au Master 1000 de Cincinnati et Indian Wells. Il a honoré sa première sélection en Coupe Davis à l'âge de 14 ans et confesse volontiers être un plus grand fan de foot que de tennis. Il a été élu homme de l'année en Chypre en 2005, il n'y a plus de suspense, vous avez reconnu le souriant Marcos Baghdatis. Il revient pour nous sur son adolescence vécue en France, puis nous raconte son premier huitième de finale à l'Open d'Australie contre Roger à 20 ans seulement. L'année d'après, à 21 ans donc, il était à une marche de s'envoyer le premier grand chelem de l'année, toujours contre ce GOAT de Rog. Marcos nous explique pourquoi il est si dur mentalement de tenir contre le Suisse et ce qui fait de lui un joueur si exceptionnel. On évoquera ses blessures à répétition et ses anecdotes en dehors du cours avec les trois plus grands joueurs de l'histoire. Il est temps de vous régaler avec le récit légendaire de notre Marcos national. Et juste avant de lancer l'entretien, pense à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître la chaîne et un commentaire sympa nous va droit au cœur. Assez parlé, place à l'épisode. Bonne découverte et bonne écoute à tous.
Et pour l'anecdote, j'ai refait l'intro parce que j'avais oublié d'enregistrer la première fois. Putain.
Bien joué.
Bon, on y retourne. Tu m'as dit que tu avais choisi le tennis et pas le foot. Pour quelle raison? Est-ce que tu peux nous le redire très rapidement?
Bon, en fait, j'ai choisi le tennis parce que mes deux frères jouent au tennis. On était tout le temps dans un club de tennis. Et ma famille était plus sur le tennis. Donc, moi, j'ai pris le chemin du tennis aussi.
Tu m'as aussi précisé que ça avait été compliqué parce que c'était tellement sacrifié pour le tennis. Il y avait une part de toi qui, pas détesté, mais pas loin, tu l'aimais autant que tu pouvais le détester quelque part.
Bah oui, c'est normal parce que le tennis, je peux pas dire que je le déteste, mais il y avait des moments où je le détestais parce que le tennis m'a fait sacrifier beaucoup de choses de ma vie personnelle. Et aussi, en même temps, tu peux pas aimer quelque chose sans le détester aussi. Le foot, j'aime le foot parce que c'est un autre sport, c'est un sport d'équipe, c'est un sport où t'es avec des potes, t'es en famille un petit peu, donc c'est différent. Mais le tennis, t'es tout seul, surtout moi quand je suis parti de chez moi à 14 ans. Je suis parti en France dans l'académie Bobrette à l'époque. Voilà, j'étais dans une famille d'accueil, j'ai laissé toutes mes amis, ma famille, mes parents à Chypre, donc c'était un petit peu dur, ça m'a fait un petit peu le détester par moment, mais voilà quoi, c'est quand même le sport que je choisis moi-même, que je tout fais pour être le mieux possible. Et voilà, quoi.
Tu me disais que c'était ton père qui avait choisi l'Académie Bob Brett parce qu'elle était réputée pour être la meilleure et pas trop loin de Chip. Et tu es parti grâce à une bourse, c'est ça?
Bah, je suis parti grâce à une bourse de ETF parce que il y a en fait dans l'ETF International Tennis Federation, en fait, ils ont des bourses ils avaient des bourses avant, je sais pas maintenant, mais ils avaient des bourses avant pour les petits pays comme Chypre qui donnaient si tu étais bien classé au moins 14 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans dans les juniors, dans les tournois internationaux. T'avais une bourse par l'ETF qui pouvait t'aider à aller voyager, payer des coachs, voilà quoi. Donc moi, mon père a choisi que j'aille à l'Académie de Beauvret.
Est-ce que tu peux nous redire un peu ta progression chez les jeunes, vraiment dès le départ au niveau des classements, comment t'as évolué?
Moins de 16 ans, moins de 14 ans, j'étais, je ne me souviens même pas, 7e mondial. Moins de 16 ans, j'ai pas beaucoup joué parce que on est avec mon coach à l'académie, on a décidé que je joue beaucoup de juniors, très jeune. La première année où j'étais censé jouer les moins de 16 ans, à 15 ans en fait, je n'ai pas beaucoup joué. J'ai joué peut-être 2-3 tournois, on a fait beaucoup de tournois juniors, moins de 18 ans. On a vu que j'avais le niveau, on a vu que depuis le début, j'ai eu des résultats et donc on a continué. Donc je restais sur les juniors.
Et tu as eu des classements français vraiment, tu sais, 5-6, 4-6
J'étais 0, moins 2, moins 4 et moins 30, je pense. Voilà quoi. Mais je ne me souviens pas. J'ai gagné un tournoi, je pense, en France, tournoi français.
Quel meilleur souvenir tu gardes chez les juniors?
Quel meilleur souvenir, il y en a beaucoup, quoi. C'était vraiment les plus belles moments de ma carrière parce que on voyageait, on était 3-4 à voyager. Il y avait Christian Chao, je sais pas si tu le connais, c'était un Français où il était dans le groupe où j'étais. Il y avait Doudy Sella qui venait avec nous, c'est un très bon pote. On faisait des tournois avec un coach, donc il y avait il y avait Gilles Muller aussi, donc on faisait des tournois ensemble, donc c'était vraiment sympa, quoi, parce qu'on sentait qu'on était une équipe. Pour moi, le Brésil, quand on a fait des challengers au Brésil, c'était sympa. J'étais junior quand même, mais on a fait des challengers au Brésil et on partait de Sao Paulo à Belo Horizonte avec la voiture, on avait la guitare dans la voiture, tu vois, on avait un mini bass tous les joueurs, tu vois, c'est sympa, quoi. C'était non, pas moi, c'était le frère de Doudy Sella qui jouait un petit peu de la guitare et nous on chantait, on faisait des conneries, quoi. Mais voilà, c'était des good moments, quoi. Ouais, voilà, quoi, parce que tu réfléchis pas, tu vois, pas que à gagner ou pas. Ouais. Les enfants, pardon. Tu réfléchis pas, tu vois, que à gagner. Tu prends vraiment du plaisir. Tu n'es pas professionnel encore. Tu t'éclates, quoi, tu vois.
Est-ce qu'il y a une anecdote, un souvenir en particulier chez les juniors avec tes potes? Doudy, Gilles ou autre, que tu pourrais nous raconter un truc que tu as vécu sur un tournoi un peu improbable?
Ouais, parce que c'était en 2002 ou 2001. Non, 2002, 2001. Non, 2001 en fait. On était au Japon, à Osaka. Je dors avec Gilles dans la chambre, Gilles Muller. Okay, Gilles Muller, il joue pour le titre numéro 1 mondial. Et Osaka, c'est un groupe A, en fait. C'est, après les grands chelems, c'est le tournoi le plus important. Il y avait les quatre grands chelems et il y avait 5-6 groupes A. Ça joue entre Gilles Muller et Janko Tipsarevic. Et moi, je suis 15e ou 20e mondial junior, même pas 40e. Et là, je dois jouer Gilles Muller en quart. Et Gilles Muller, il joue pour le titre de numéro 1 junior. Donc, et on est dans la même chambre. Je le bats en quart. Et là, je me souviens, le coach de Gilles, il était fou. il est devenu fou parce qu'il croyait pas que je pouvais aller gagner le tournoi, tu vois. Il pensait que le prochain, et je joue Tipsarevic en finale. Donc il faut que je gagne bat Tipsarevic pour que Gilles finisse numéro mondial.
Ah ouais.
Donc voilà, c'était marrant pour nous, c'était marrant pour moi, j'avais une pression de dingue. Par Gilles Muller et son coach, et aussi par l'académie, parce que c'était quand même, tu vois, l'académie, elle avait un numéro mondial junior. Donc, je finis par battre Tipsarevic.
Combien? Donc, tu te souviens?
Non, je pense que c'est 6-4 au troisième ou quelque chose comme ça.
Ah, gros match.
Bon. Ouais, gros match. Donc, voilà. Donc, voilà.
Comment tu as traversé la période des futurs et des challengers, un peu cette jungle? Comment ça s'est passé?
Futurs, challengers, bah écoute, en 2003, j'ai quand même fini dans les top 200 en senior, en ATP. J'ai gagné, cette année-là, j'ai gagné peut-être 4 futurs, je faisais de demi dans les challengers. En fait, ça allait très vite. Et après, ça tout allait vite, quoi. Voilà, je finis le junior à 18 ans, à 20 ans, j'étais en finale de l'Open d'Australie. Et l'année d'avant, j'avais 19 ans, j'ai quand même passé les qualifs de l'Open d'Australie et j'ai fait 4e tour. Et je perds contre Roger Federer. Donc, tout allait vite pour moi. Tout allait très vite.
Tu gardes un souvenir particulier dans un futur pareil, un challenger? Une anecdote, une galère, un truc un peu...
galère, tu vois, on en a beaucoup, quoi. On en a beaucoup. Quand tu fais des futures et des challengers en Inde, en Ouzbékistan, tu vois, surtout il y a 15 ans, tu vois. Donc, on faisait des futures pas dans les... Comment ça s'appelle? Pas dans les pays, pas dans les villes, tu vois, comme Mumbai, tu vois, on faisait dans les villages de l'Inde, quoi. Ou des villages en Ouzbékistan avec Guillaume Père, mon ancien coach. Je me souviens beaucoup de choses, quoi.
Tu te souviens de ta pire galère, peut-être?
Bah ouais, en Ouzbékistan, quand tu arrives à Tashkent et tu prends la voiture, un minivan, on est quatre dedans. Avec d'autres joueurs de l'académie, on est des 3 joueurs avec le coach Guillaume Père. Tu dois conduire 7 heures et chaque ville, elle a des borders, les frontières, c'est de l'armée avec des machine guns, quoi. Donc ouais, on s'est pissé dessus, quoi. Il y en a beaucoup en Inde. Quand tu arrives dans les tournois, dans le village de 2 heures de Mumbai et les terrains sont pas encore prêts. Les terrains de tennis, les durs, sont pas encore prêts. Le jour des qualifs, donc on en a beaucoup, ouais. Il faut parler à Guillaume Père. Il va vous dire beaucoup de choses.
J'étais à l'académie dans les Yvelines quand t'as fait quart. Non, c'est 8e.
Ouais, 4e tour à l'Open. Ouais.
Australie. Est-ce que tu peux nous raconter cette Open d'Australie assez incroyable? Qui tu bats dans les qualifs? Est-ce que tu ressens quand tu es dans le tableau? Comment tu as vécu le truc?
Bah écoute, qualif, je ne me souviens pas à qui je bats. Tableau, je bats premier tour. Qui je bats premier tour en tableau final? Je me souviens du deuxième tour, du troisième tour et le quatrième tour contre Federer. Le premier tour, je ne me souviens pas. Le deuxième tour, c'était contre Ljubicic.
Ouais.
Et le troisième tour contre Robredo. Bah, c'était le début. J'étais fou, quoi. J'étais fou. J'avais pas peur. J'avais peur de rien. Je rentrais dans le terrain. Je pouvais mettre n'importe qui devant moi. Je jouais, quoi. Je jouais mon jeu. Je jouais mon tennis. J'avais une confiance en moi. J'avais l'impression que je peux trouver toujours la solution sur le terrain. Je juste jouais, quoi. J'étais dans une boule pas possible, quoi.
Contre Roger, ça s'est passé comment?
Contre Roger, je parle du quatrième tour, hein. C'était 3-7. J'avais une occasion, le troisième set, c'était le premier 2-7, il m'a déchiré. Le troisième set, on était allé au tie-break. Je pense que je menais au tie-break 4-2 ou 4-1. Et c'est là où j'avais ma chance.
T'as vu une différence de niveau vraiment par rapport aux autres joueurs à ce moment-là sur les deux premiers sets, non?
Bah ouais, je pense que avant Roger, tu vois, il t'embrouillait un petit peu la tête avec la façon qu'il jouait, tu vois. Et il fait toujours, mais avant c'était un petit peu plus long le jeu, donc il avait plus de temps. Avec son slice, il prenait la balle tôt, après il faisait un service volé de temps en temps, il faisait chip and charge, il t'embrouillait un petit peu la tête, il ne te laissait pas jouer, il ne donnait pas de rythme, il changeait toujours le rythme et voilà. Donc c'était la différence que lui, il avait, que les autres joueurs, ils n'avaient pas. Les autres joueurs, ils jouaient, tu vois, comme un Robredo, par exemple. Il avait un gros coup droit, mais il avait des weaknesses, quoi. Tu trouvais des solutions, tu trouvais des moyens de le... Comment t'as dit ?
Faiblesse.
Faiblesse, ouais. Les faiblesses où tu trouvais la solution, quoi. Mais Roger, c'était dur de trouver sa faiblesse, quoi.
Je me souviens cette année-là, quand tu rentres à l'académie, tu es tout bronzé, tu as une veste en cuir, tu t'es fait plaisir, tu as acheté une Audi TT et tu as même passé ton permis directement. Tu te souviens un petit peu l'état d'esprit parce que tu étais hyper jeune.
Tu te souviens si tu arrives. Non, c'était pas en 2005 que j'ai acheté la TT.
Ah, il me semblait.
Non, j'ai acheté la TT en décembre 2006.
Ah oui, c'était après le. D'accord. Mais tu étais hyper jeune, tu te souviens un peu si tu arrives à garder les pieds sur terre, à rester au contact, à être humble et tout. Enfin, tu te souviens à cette époque-là parce que tu as explosé hyper rapidement.
Après la finale de 2006, oui, ma vie a changé d'un jour à l'autre. Et c'était un petit peu, tu vois, beaucoup de gens, ils voulaient te parler, ils voulaient de passer du moment avec toi. Et comme tu sais, l'académie est très petite. Elle était petite. On avait des chalets où il y avait des parents, des jeunes qui venaient dans mon chalet. Et ils commençaient à écouter à la porte, tu vois, pour poser des questions et tout. Donc, j'avais pas la... Tu vois, c'était un petit peu bizarre pour moi, tu vois. J'ai quand même eu 21 ans et voilà, donc les pieds à terre, il faut que tu demandes d'autres gens, parce que moi je pense que oui, j'avais, mais c'est pas, peut-être les autres gens ils peuvent dire autrement, mais oui, ça c'est sûr que mes jambes, elles étaient toujours à terre.
Tu parlais déjà de l'année d'avant où tu fais 8e.
Ah, 8e, non, je pense que déjà après la 8e de finale, je pense que 6 jours après la 8e de finale où je fais en 2005, je me fais opérer du bras. Donc je n'ai pas eu le temps de sentir tout de suite. Une semaine après, j'ai eu une opération du bras qu'il fallait avoir.
C'était quoi ? T'avais quoi au bras ?
En fait, j'avais le nerf, j'ai perdu 40% du muscle au bras droit parce que le nerf, il était coincé.
D'accord. Et quelle était ta relation avec Bob Brett quand tu es arrivé et puis après Patrick Mouratoglou ?
Quand je suis arrivé à l'académie Bob Brett, avant que l'académie elle bouge à Tiverval, en fait, Bob Brett, Bob Brett, on ne le voyait pas beaucoup, tu vois, c'était mon entraîneur qui était Jean-Paul Damit. Et Bob Brett, il venait peut-être une semaine par mois et il faisait des entraînements avec nous un petit peu. Je pense que c'était un coach très dur avec les jeunes, surtout à l'âge qu'on avait, que je ne comprenais pas pourquoi. Mais maintenant, je comprends pourquoi. Mais avant, je ne comprenais pas pourquoi. Très dur, tu vois. Par exemple, tu es une minute en retard, tu fais des pompes, tu vois. Il y avait beaucoup de règles à suivre avec lui. Et ses entraînements, c'était très, très dur. Après, Patrick Mouratoglou, en fait, à cette époque-là, en fait, il n'était pas coach. Quand il y avait Bob Brett, il était agent. Il avait une agence et il était dans le bureau, il faisait l'agent. Et en fait, parce qu'il jouait au tennis, Patrick, il adorait le tennis, il adore le tennis. Il faisait des matchs avec nous l'après-midi, avec moi, avec des autres joueurs. Donc, en fait, il travaillait le matin et l'après-midi, il faisait des matchs avec, avec les joueurs qui avaient l'académie. Et voilà, et en 2003, en fait, en avril à peu près, il a, comment ça s'appelle, they had a fight. Bob Breton, Mouratoglou, had a disagreement. Et Patrick voulait fermer l'académie. Il a dit à tout le monde qu'ils aillent chez eux. Donc, c'est là où mon père est venu. Et on a essayé de trouver une solution. On a essayé de demander qu'est-ce qu'on va faire. Et en fait, mon père et Guillaume Père a eu des meetings avec Mouratoglou. C'est là où Mouratoglou a décidé de faire son académie. À partir de Montreuil, il va faire son académie lui-même, qui s'appellera Mouratoglou Tennis Academy, à Tivarol Grignan, dans les Yvelines.
Et tu disais que Bob Brett était très, très strict, très exigeant, et que tu ne le comprenais pas à cette époque-là. Pourquoi aujourd'hui tu le comprends? Pourquoi tu te dis qu'aujourd'hui il avait raison?
Parce que pour être le meilleur possible, il faut de la self-discipline, quoi. Il faut de la discipline, il faut travailler dur. Je l'ai compris un petit peu plus tard, peut-être. Après mon opération que j'ai eue au bras, je commence à comprendre que, tu vois, il faut travailler dur, il faut dédier beaucoup de temps, il faut sacrifier beaucoup de temps aussi, de faire le boulot. De dormir à la bonne heure, de manger les bonnes choses. Un athlète professionnel, c'est ça. Mais au début, quand j'avais 14 ans, je ne comprenais pas, quoi, tu vois.
Aujourd'hui, si tu devais coacher un jeune, tu serais pareil? Tu lui ferais faire des pompes s'il est en retard?
Non, je lui expliquerais un petit peu autrement. La vie évolue, les gens évoluent, ils changent la méthode, les façons. Donc voilà, quoi.
Est-ce que tu peux nous refaire du coup un peu le film de 2006? Tu bats Ljubicic en 5-7, tu bats Nalbandian, tu es mené 2-7-0. Comment tu as vécu ces deux matchs-là?
Ljubicic, en fait, comme on dit, I was up 2-7 to love.
Tu mènes 2-7-0.
Je mène 2-7-0 et il revient à 2-2. Et là, j'ai qu'une balle de break à 3 partout. Il y a 3 partout or 4-3. I don't remember. J'ai une balle de break. Et ouais. Je sais qu'il va servir extérieur. Il sert extérieur. Et en fait, je ne l'attendais pas. Je ne sais pas s'il a fait service volé ou pas. Mon retour n'était pas terrible. Il approche sur mon coup droit et je fais un passing croisé avec mon coup droit. Je me souviens de ce point comme si c'était hier. Et c'est là où, voilà, quoi, je relâchais un petit peu, j'ai gagné le match. Et après, Nalbandian, c'était c'était monstrueux. Pas le match, je pense pas qu'il, peut-être, je sais pas s'il était monstrueux. Je sentais pas que je jouais grave au tennis, très bien au tennis, mais je sens que c'était un film, quoi. C'est lui qui mène 2-7-0. Après, il y avait des feux d'artifice à 5-2-2 deuxième. Je reviens 5 partout, il gagne le 7-7-5, le deuxième, il mène 2-7-0. Et là, je ne sais pas pourquoi, je commence à lâcher mes coups. Je me dis, ben, je n'ai rien à perdre, je commence à lâcher, je commence à être plus agressif que lui. Je pense que dans un jeu, je fais 4 retours gagnants. Et là, je commence à prendre confiance, conscience aussi que c'est la façon de gagner le match. Et j'ai lâché en fait tout, j'ai tout lâché. Jusqu'au, j'arrive à 2-7 partout, et là, il prend l'avantage, je prends l'avantage 2-0, il prend l'avantage 4-2, si je me souviens bien, hein. Il a 4-2, c'est sûr. Et là, je me dis, je rate pas une balle. Je me dis à moi-même que je rate pas une balle. Je vais courir comme un rat et je vais pas rater une balle.
Ouais.
Et je me suis dans une boule pas possible où je rate pas une balle pendant 3 jeux. Donc je break, je gagne mon service 4-3, je break à 4-2, je gagne mon service à 4-3, donc pas 4 partout, et je le break à 4 partout, donc c'est 5-4 pour moi. D'accord ?
Ouais.
Il y a 30-15 pour moi, et là, il y a 15 partout, et là il commence à pleuvoir. Commence à pleuvoir, donc ils avaient le roof à cette époque, mais il était ouvert. Donc, ouais. Il faut qu'on rentre dans les vestiaires. Et là, Je me mets sur le vélo parce que Guillaume m'a dit de ne pas arrêter de bouger parce que sinon je vais cramper. Le supervisor, il vient, ouais. Il nous dit on a encore 20 minutes. Et là, je regarde ouais. Guillaume, je lui dis putain, Guillaume, je ne sais pas quoi faire, tu vois, je ne sais pas. Il me dit une chose, Guillaume, qui est bête, qui est con, mais qui m'a vraiment aidé à ce moment-là. C'est, il me dit je n'ai pas peur pour toi, j'ai peur pour lui. Je sais pas si tu non. entends ça, tu dis ouais, c'est con quoi, tu vois. Mais il m'a donné une confiance, une the power, comme on dit. Il m'a donné un truc, une puissance à ce moment-là où je savais que je vais rentrer, je vais pas perdre le match. Voilà, donc je continue à pédaler, je rentre dans le match, je rentre dans le terrain. The crowd goes wild, you can feel the energy. I mean, tu sens l'énergie dans le stade. Et je sers, bon, on vient à 40A ou 30A. Première balle de match pour moi à 40-30. Je fais un revers long ligne qui, en fait, le juge arbitre, le juge arbitre, il fait correction. En fait, je fais un revers long ligne gagnant et le juge arbitre, Pascal Maria, il fait correction, the ball was out. À ma balle de match.
Oh putain.
Ouais. Oh putain, ouais. Comme tu dis. Et là, je regarde Guillaume.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Il me dit, elle est faute. Ok, bon, je continue. Et là, on joue le prochain point. Il fait une faute directe sur le filet, un revers sur le filet. Mon ami David. et après, je finis par un ace. Bon, bref, l'émotion la plus incroyable de ma vie que j'ai eue. En terrain de tennis. Ouais, énorme. Je ne peux pas t'expliquer comment tu te sens parce que tu te sens que tu n'as pas de poids sur toi. Comment ça s'appelle? Feather, quoi.
C'est un nuage.
Ouais, tu voles. Et je rentre dans les vestiaires et tout. Et là, j'ai la télé devant moi. Et qu'est-ce qui me montre la télé? Qu'est-ce qui montre? Mon revers en ligne. Parce qu'il n'y avait pas de hokai à cette époque-là. Il n'y avait pas de hokai. Mais il y avait l'hokai pour les télés, pour voir si la balle est bonne ou pas. Mais il n'y avait pas l'hokai pour les joueurs. C'est l'année d'après qu'ils ont mis le hokai. Et mon revers en ligne, il était bon.
Ah la vache! Incroyable.
Ouais, incroyable.
Heureusement qu'il gagne.
Heureusement, ouais.
Incroyable. Et en plus, il y a une communauté de fous de Grecs en Australie. Et du coup, t'as toujours eu une ambiance incroyable. Tu t'es tout le temps senti chez toi là-bas.
Bah ouais, à Melbourne surtout. Il y a tous les quatre gens, il y a un qui est grec.
C'est incroyable.
Ouais.
Il y a autant de Grecs à Melbourne.
Bah à cause de la guerre, ils sont partis tous là-bas quoi.
Il n'y a pas une année où tu leur as offert des billets?
Non. Ça, c'est des conneries.
Ah d'accord, je croyais. Et du coup, la finale, comment tu la prépares? Alors déjà, avant la finale, pour rappeler, tu bats aussi Stepanek et Roddick avant. C'est quand même deux gros points, quoi. Un truc particulier à préciser sur ces deux matchs?
Bah, Stepanek, c'était un match aussi. C'était à midi à Stepanek, en fait. Je joue contre Stepanek à midi. Deuxième tour à midi, il faisait 36 degrés ce jour-là. C'était très chaud. Je gagne le premier set en jouant incroyable. Et là, j'ai crampe au stomac. Et en fait, je prends les prochains deux sets 6-2, 6-0. Et au cinquième set, en fait, c'est lui aussi qui commence à cramper, qui commence à ne pas se sentir bien. Donc, on est les deux à ne pas se sentir bien. Donc, on se bat comme des rats pour gagner le match. Et en fait, je le gagne à 7-5 au cinquième. Et c'était un match, tu vois, c'était celui qui, the one who survives, tu vois, c'est lui qui survit. C'était pas vraiment du beau, beau, beau tennis, mais voilà. Et après, Roddick, encore, il fait 40 degrés, mais on joue dans le central, le toit fermé. Donc, il faisait bon dans le terrain, il y avait une bonne température. Et là, je jouais, je pense, un des meilleurs tennis de ma vie. Je le retournais toujours. Je trouvais la solution de le retourner. Et je jouais 60 winners, 12 fautes directes, quoi.
Bon, bah, tu nous gardes la finale pour demain?
Ouais, on parle demain pour la finale.
Bon, allez, à demain. Bonne
journée, Max. À demain. Merci. Ciao. Ouais, je vois. C'est bon.
Trop bien. Alors, est-ce que tu peux nous terminer de nous raconter avec la finale de l'Open d'Australie 2006 ? Et puis après, on passera sur deux autres matchs clés qui ont marqué ta carrière, les victoires contre Rafa et contre Roger. Mais déjà, est-ce que tu peux nous raconter cette finale de l'Open d'Australie ? Comment tu la vis ? Comment tu la prépares ?
Bah, écoute, déjà, la même année, c'était le tournoi de Doha. En fait, trois semaines avant la finale de l'Open d'Australie,
ouais.
Je joue en quart contre Roger Federer. Donc, trois semaines avant, je te parle. Et je perds contre Roger 6-4, 6-4. Et je sors du match, je dis à mon coach Guillaume Père, je lui dis que je sentais pendant ce match que j'avais des occasions, je trouvais un petit peu la solution de comment le jouer, il fallait être un petit peu plus agressif. Et en fait, je dis à Guillaume, la prochaine fois que je joue Roger, je pense que je l'ai.
Oh, c'est bon ça.
Ouais, je dis ça à Guillaume quand j'ai perdu contre Roger en quart à Doha. Donc en fait, ouais. On vient après, trois semaines après, je suis en finale contre lui. Et j'avais une confiance en moi, mais incroyable, quoi. Je sentais que c'est le moment, tu vois, c'est le moment je vais le battre, tu vois, parce que je jouais quatre fois avant, je gagnais qu'un set contre lui à US Open en 2004. Et là, je rentre dans le match confiant avec la confiance que je vais gagner, quoi, parce que je savais, je commençais le match très bien, parce que je me suis dit, je vais être très agressif sur sa deuxième balle. Je ne vais pas lui donner du rythme, je vais l'attaquer de suite. Et ça se passait bien pendant un set. Et je menais 7-5, 2-1, 2-0 break pour moi. Et en fait, ouais. J'ai eu deux balles de break à 2-0, deuxième set. 15-40 sans son service. Et là, il s'en sort un petit peu, il gagne son service. Il me break derrière. Mais il n'y a rien qui a changé, tu vois, il y a deux partout, on continue, on gagne chacun son service. Et là, il y a 6-5 pour lui, à moi de servir, 40-0 pour moi. Donc en fait, j'ai trois balles de jeu pour aller dans le tie-break. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé,
Un trou.
Je sors de ma boule, je sors de mon jeu, je fais trois doubles fautes dans le même jeu. En fait, je fais une double faute à 0-40, il gagne le point, je fais encore une double faute et je fais en fait 3-4 unforced errors, comment ça s'appelle, des fautes directes, quoi. Deux doubles, trois doubles et deux, trois fautes directes. Et là, je perds le set et là, pour moi, c'était fini. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je me vu gagner et en fait tout a basculé après ce jeu là quoi, et après c'était une boucherie quoi, 0 et 2, 2-0, et voilà. Donc en fait je pense que je carrément me vu gagner, je me vu gagner l'Open d'Australie et je me gagnais trop tôt, quoi.
Aujourd'hui, si tu coachais Marcos de 2006, à ce moment-là, tu lui dirais quoi ?
Bah, de rester dans sa boule, quoi. Je ne lui dis rien parce que c'est à lui de trouver. Je veux dire, c'est à lui de trouver. C'est l'une minute ou 30 secondes où j'ai perdu un petit peu ma tête, quoi. Je me suis gagner, quoi. Et je me suis gagner trop tôt et j'ai perdu la concentration, je commence à réfléchir, ou tout le tournoi, je réfléchissais à rien, j'étais dans ma boule. je regardais la balle et il n'y avait que la balle qui était importante. Là, je me suis complètement sorti du truc, je m'ai vu gagner et je commence à penser à l'avenir, quoi. Je n'étais pas sur le présent, tu vois.
Tu as eu peur?
Possible. Je sais, honnêtement, je ne sais pas. Je ne pense pas que j'ai eu peur, mais tu sais, tu commences à réfléchir qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas gagner, tu vas te mettre par terre, tu commences à réfléchir des choses où, inconsciemment, je pense, c'est à tout le monde, quoi, quand tu es si près de ton... C'est parce que ce n'était pas un objectif, c'était un rêve de gagner un grand chelem, tu vois, ce n'était pas un objectif, tu vois, c'était un rêve, c'est tous les sacrifices que tu as fait avant, tu vois, tous les trucs que tu as passé dans ta vie, t'es à deux pas de le réaliser. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Je pense pas que c'est la peur. Mais je sais pas. Il faut demander à un psychologue si c'est la peur ou. Mais je pense que moi, c'est la excitation. Peut-être t'es content. Je sais pas. Peut-être t'es content de toi-même. Pas d'arriver jusque là, mais en fait, tu t'es vu gagner, donc en fait, t'es content, quoi. Honnêtement, je sais pas.
Comment t'étais le lendemain et les jours qui ont suivi? Comment tu l'as digéré?
Je l'ai digéré, honnêtement, au début, ça m'a fait pas mal, tu vois. Au début, bon, j'ai quand même fait la finale de l'Open Australie, je pense, tu te dis, bon, merde, ok, t'as perdu, mais tu vas avoir des autres cases, tu vois.
Ouais.
Tu vois, après des semaines, tu dis merde, quoi. Tu vois, quand même, t'étais un pâté dans ton rêve. Après, tu commences à réfléchir plus. Est-ce que je vais avoir cette chance-là ou pas? Ça va revenir? Il faut repartir travailler, tu vois. Il faut repousser. T'étais si près de ton objectif et de ton rêve, et il faut repousser, refaire tout, qu'est-ce que t'as, pas tout, mais il faut continuer à travailler si dur. Ça m'a un petit peu, tu vois, ça m'a fait un petit peu mal, quoi.
Comment ta vie a changé concrètement? Qu'est-ce qui a été différent après la finale de l'Open d'Australie?
Rien n'était différent. Je continuais à travailler. Je fais des bonnes années. Je fais quand même demi à Wim la même année. L'année d'après, j'ai gagné mon premier titre à Pékin. Après, en gagnant la Pékin, j'étais 6 dans la race et j'étais prêt à aller au Masters à la fin de l'année,
ouais,
qui est à Shanghai. Et en fait, j'avais un entraînement à Thaïlande la semaine après et je tombe par terre à l'entraînement et je bouge ma clavicule. J'étais vraiment déçu. Parce que je n'ai pas joué jusqu'à... Avant, c'était Vienne-Madrid. J'essayais de jouer Vienne et Madrid avec ça. Et je n'arrivais pas. J'ai perdu Vienne et Madrid et Lyon au premier tour. Et après, je n'ai pas joué Bercy parce que j'avais très mal, quoi. Donc j'étais vraiment... c'était dur pour moi. Mais après, bon, on a fait le foncier. J'ai eu une très bonne année en 2007. J'ai gagné Zagreb et j'ai fait 3 finales à cette année-là, à Halle, Marseille. Donc, j'ai eu une bonne année aussi. J'ai fait 4e tour à Roland-Garros cette année. Et en fait, pour moi, ce qui a changé ma carrière, c'est que ça m'a mis un coup. C'est en 2008, j'ai eu 3 blessures. En 2008, j'ai eu à Indian Wells, j'ai eu ma cheville qui m'a arrêté jusqu'à Roland. J'ai repris à Roland. J'ai fait Roland, Halle et Wim. Et j'ai fait quand même 4e tour à Wim. Et je jouais bien. Et après ça, j'ai eu un hématome dans le poignet. Donc, j'ai raté les JO et US Open.
Ah, putain.
Et après, je rejoue Metz. C'est là où je joue contre Karlovic, premier tour. Je bougeais mon disque pendant le match. Donc, en fait, cette année, mon disque de dos, le disque.
Ah, d'accord.
Ouais. Pendant le match, je servais et je restais par terre, en fait, après le service, je ne peux pas bouger. Donc, c'était une année terrible, quoi. Après, je ne pouvais pas travailler de la même façon, je ne pouvais pas tu vois, j'essayais des années, mais il y avait des autres blessures qui revenaient. Et ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu changé la façon que je travaillais, la façon que je voulais travailler, parce que j'étais quand même un mec qui travaillait beaucoup, qui était très rigoureux. Et j'étais prêt à aller foncer dans le mur pour réussir. Et ouais. En fait, voilà, ça m'a un petit peu arrêté. Et voilà, et après, j'ai perdu un petit peu de confiance, je pense, en moi-même aussi, en mon corps. Et ça m'a un petit peu ralenti ma carrière. Voilà.
Tu sais pourquoi ton corps a explosé comme ça? Tu l'as trop sollicité quand tu étais.
Moi, je pense que oui, parce que je pense que quand j'étais à l'académie de Bobrett, il y avait des bons préparateurs physiques, mais il n'y avait pas d'expérience, tu vois. C'était des jeunes. Il n'y avait pas des gens qui avaient de l'expérience pour savoir comment ça se passe une carrière de professionnel de tennis. Et moi aussi, j'avais aucune expérience, mes parents, ma famille, aucune expérience à ce niveau, dans ce niveau-là. Donc, je pense que voilà, j'essayais de trouver des solutions. Je trouvais j'embauchais des bons préparateurs physiques, des bons coachs, mais voilà quoi, mon corps, il se blessait toujours après. J'avais toujours des petits bobos, des problèmes, mais quand même, j'essayais. Je suis revenu. Je tombais en 2009, j'étais 160, si je me souviens bien, et à la fin de 2010, je finis quand même 20e mondial, où je suis revenu, j'étais bien, et encore une autre blessure qui m'a arrêté. J'ai eu un passage difficile en 2010, en 2011, au début de l'année, et voilà quoi.
En 2010, tu reviens quand même plutôt fort, tu bats Roger à Indian Wells et Rafa à Cincinnati, numéro 1 mondial. Est-ce que tu peux nous raconter ces matchs, comment tu les as préparés, comment tu les as vécus? Parce que quelque part, tu reviens de loin, quoi.
Bah ouais, je fais beaucoup de matchs. En 2009, je gagnais 4 challengers de suite. J'ai gagné Stockholm en 2009 à la fin de l'année. Je reviens en 2010, ou au début de l'année, où je quand même gagne Sydney. En 3 mois, j'ai gagné 2 tournois. J'avais plein de confiance. J'étais bien physiquement. J'avais pas de bobos. J'étais bien. Et en fait, voilà, je jouais au tennis, quoi. Je retrouvais mon physique, mon agnac, mon envie, parce que je retravaillais différemment, et je retrouvais un petit peu de plaisir sans se réveiller tous les matins et avoir de bobos, des problèmes, et voilà, ça m'a aidé beaucoup mentalement. Et après, ouais, j'ai battu Roger et Rafa, mais je pense que c'est toute l'année où j'ai très bien joué, quoi. J'ai très bien joué, j'avais de la consistance.
Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu ces deux matchs, vraiment, comment tu les as joués, comment tu les as vécus?
Bah, ces deux matchs, toujours quand je joue Rafa ou Roger, c'était très, pas très serré, mais tu vois, j'avais des occasions. Et je pense que cette fois-ci, Roger, à Indian Wells, il avait ses occasions. Il avait 2 balles de match. Il les a pas pris. Et ça a tourné un petit peu, quoi. Où les autres matchs, c'est moi qui avais un petit peu des occasions. Je les ai pas pris et c'est lui. Donc, en fait, voilà, c'était toujours un petit peu serré contre Rafa et Roger, surtout quand j'étais bien physiquement. Et cette fois-ci, c'est moi qui ai pris les occasions. Avec Roger, j'étais un petit peu chanceux parce que il avait vraiment une occasion. Il avait un revers qui rate au milieu du terrain, qui rate sur le filet, revers long ligne. Donc j'étais un petit peu chanceux. Avec Rafa, à Cincinnati, je pense que c'était la bonne surface pour moi pour le jouer parce que le terrain était un petit peu plus vite. Je pouvais gagner. J'ai très bien servi ce jour-là. Je pouvais gagner beaucoup de points faciles. Il n'y avait pas énormément de rallies. Et je pouvais, make the points a bit shorter. Et voilà.
Est-ce que tu pourrais nous raconter des anecdotes, des choses que tu as vécues avec Rafa, avec Roger, avec Djoko,
en dehors du terrain qui montrent que c'est vraiment des hommes, des personnes incroyables.
Déjà, c'est les mecs, tu vois, surtout Roger et Rafa, tu vois, ils te voient n'importe où dans la ville ou à l'hôtel ou t'es à 20 mètres de eux, ils te voient, ils viennent te dire bonjour, et ça, je trouve que c'est quand même incroyable, tu vois. Je pense pas qu'avec moi, c'est avec beaucoup de gens, beaucoup de joueurs, hein, peut-être tous, et c'est sympa, tu vois, donc, et même, ils disent bonjour à ton équipe, tu vois, ils sont vraiment, vraiment des hommes exceptionnels, les deux. Djokovic aussi, mais, tu vois, Djokovic, il est un petit peu plus, comment ça s'appelle, enfermé avec son équipe, enfermé avec lui-même. Okay. Roger, tu vois, il rentre dans les vestiaires, quand il rentre, il a toujours une connerie à dire, quoi, tu vois, il a toujours une connerie à dire, donc c'est marrant. Rafa, il est un petit peu enfermé aussi, mais il parle pas beaucoup, ouais. Et Djokovic aussi, mais Roger, c'est le mec qui parle le plus, quoi.
Est-ce que t'as vécu des entraînements beaucoup avec eux ou t'es allé au resto ou des moments un peu sympas à raconter?
Avec Rafa, je voulais pas m'entraîner. Pas parce que j'aime pas, mais c'est j'aime pas la façon qu'il s'entraîne. C'est qu'il y a pas de rythme. Il tape très fort la balle. Très fort. Je n'aimais pas m'entraîner avec lui. Roger, on n'a pas fait beaucoup d'entraînements ensemble. On a fait peut-être 4 ou 5, mais Roger, c'est relax, quoi. C'est vraiment, tu vois, on va faire des points, il essaie de faire des rétros, tu vois, il est vraiment relax, tu vois, il tape tranquille, doucement.
Ouais.
Et Djoko, je pense qu'on ne s'est jamais entraîné ensemble.
Ok, t'es toujours en contact avec ces mecs-là ou forcément comme t'es loin du circuit?
Non, pas trop. Quand je le vois, quand j'étais là en Australie, quand j'étais avec Svitolina, je parlais un petit peu avec Roger et Djoko, mais voilà quoi, on s'appelle pas au téléphone quoi.
T'as commencé à jouer la Coupe Davis à 14 ans. Quel a été ton souvenir le plus incroyable dans cette compétition?
Déjà, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose de jouer pour ton pays, de jouer dans une équipe. Tu joues pas pour toi, tu joues pour moi. J'ai adoré, quoi. Je sais pas si tu, au début de la conversation qu'on a eue, on parlait de foot et la Coupe Davis, c'est un petit peu ça, tu vois. C'est pas du foot, mais c'est le tennis un petit peu dans cette ambiance-là, tu vois. T'es en équipe, t'es en famille. Surtout à Chypre, tu vois, parce que tous les joueurs, c'était mes potes, tu vois, c'était mon frère. Je jouais quand même avec mon frère en double quand j'étais plus jeune. Et c'est tous la famille, c'est des potes que je connais depuis j'ai 13 ans, j'ai 12 ans. Donc, c'est sympa, c'est autre chose, quoi. Donc, chaque fois, je jouais la Coupe Davis parce que je jouais beaucoup. Comme tu dis, je commençais à 14 ans, je m'éclatais, quoi. Et ça m'a... chaque fois que je jouais, je sentais que je reprenais de l'énergie quand je partais.
Ah ouais.
La Coupe Davis, elle m'a aidé beaucoup dans ma carrière, quoi.
Vous étiez en quelle division?
On était, quand je commençais, moi, on était en division 4. On est monté en division 2 pendant 9 ans. Pendant 9 ans, on est resté en division 2. Et là, on est reparti en groupe 4 l'année dernière. On est monté en groupe 3 pour cette année.
Est-ce qu'il y a un match dont tu te souviens particulièrement qui était émotionnellement fort à vivre?
Ouais, c'était en 2007. C'était la première fois que je joue à Coupe Davis à Chypre après la finale de l'Open Australie. Je joue contre le dimanche, je joue contre Jarkko Nieminen. Et là, c'est le stade est plein.
Combien de personnes?
4000 personnes, et c'était exceptionnel. C'était un match de foot.
Tu gagnes combien?
Je gagne en 3-7, je me souviens. Si je me souviens bien. En 3-7, pas facile, mais tu vois, voilà quoi.
Les gens debout à chaque point, la folie quoi.
La folie, ouais, c'était exceptionnel. Je sais pas si, je suis sûr que, c'était à la télé, donc je suis sûr qu'ils ont on s'appelle une vidéo quoi.
Est-ce que à Roland-Garros, tu te sentais un petit peu à la maison, comme tu es arrivé à l'adolescence, que tu as un peu grandi en France et que tu as appris la langue?
Bah ouais, parce que surtout bah, quand je jouais pas contre un Français, hein, mais ouais. Quand je jouais contre un Français, je me sentais pas français du tout, mais mais ouais, il y avait des gens qui savaient que, tu vois, pas tous, mais beaucoup de gens, ils savaient que je passais mon adolescence en France, et aussi j'avais beaucoup de copains et familles qui me supportaient, la famille d'accueil qui venait tous les ans, et des potes que j'ai en France, quoi, à Paris.
Ton meilleur souvenir à Roland, c'est quoi?
Bah, meilleur souvenir, c'est le match contre Grosjean en centrale de Philippe Châtrier. C'était à la fin de sa carrière. Et putain, c'était son anniversaire aussi, donc. Mais tu vois, c'était la première fois que je joue dans le Philippe Châtrier contre Sébastien, et je le bats en 3-7. Mais je trouve que je joue exceptionnellement bien. Je le bats 6-2, 6-3, 6-3, très facile. Je jouais très bien. Et ouais, c'était un moment important pour moi, parce que tu vois, Seb, c'est un énorme joueur, et il a eu une carrière exceptionnelle, et voilà, de le jouer à Roland chez lui et pouvoir le battre en jouant très très bien dans un central plein, c'était vraiment sympa.
Bien joué, et merci d'avoir écouté cette première partie avec Marcos jusqu'au bout. J'espère que tu t'es régalé, et si c'est le cas, tu peux vraiment nous rendre service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en les inscrivant toi-même directement sur leur téléphone. Merci à Olivier et Ernest pour leurs deux derniers commentaires. Olivier nous dit « Enfin des interviews faites par des joueurs pour des joueurs de tennis. Merci pour la diversité des invités. Surtout ne lâchez rien et continuez comme ça. » C'est très concrètement ce genre de témoignage qui nous pousse à continuer et à tout donner chaque semaine. Donc n'hésite surtout pas à venir nous dire ce que tu penses des épisodes en commentaire. Tu deviens instantanément une légende dans notre cœur. Tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte Tennis Légende. Lorsque tu découvres un nouvel épisode, on te repostera illico. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner à hauteur de 2€, soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne, boutique.tennislegende.fr. T'as également le lien juste en dessous dans la description de l'épisode. Voilà, c'est tout pour cette semaine et on se retrouve mardi prochain. À très vite pour un nouveau contenu et comme on dit, ciao.
We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff like research and testing to create shoes from natural materials, like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're super natural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's Allbirds.com.